Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon, mais aussi Margot Lory, dont Bertille Bourdon, Nicolas Sendé, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Jacques Azubert. Troisième volet de notre série consacrée au Covid et à ses conséquences. Après avoir parlé de la cacophonie des vaccins en Europe, puis des conséquences de la crise sur les populismes en Europe, place ce matin à la dimension sociale, à la paupérisation qui explose, direction les États-Unis.
Des familles ont faim. Les commerces sont fermés, tout a fermé. Ces gens n'ont plus de salaire.
Des gens risquent d'être expulsés.
Je dois payer mon loyer, payer mes factures, et on ne peut rien faire.
Le chômage augmente.
Quand le coronavirus a frappé, j'ai perdu mon travail. J'ai mis un mois à en retrouver un autre. Mais aujourd'hui, je ne gagne que $300. C'est pas assez.
Nous sommes dans une situation d'urgence nationale et nous devons agir comme tel.
On a différé tous les paiements qu'on pouvait. On ne paye plus le crédit de la maison, plus celui des voitures. Tout ce qu'on pouvait arrêter, on l'a fait.
Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir contre la crise. C'est un impératif économique.
Il a choisi des mots simples mais durs, des mots qui disent la réalité telle qu'elle est, des familles qui ont faim, les expulsions, le chômage. Deux jours après son investiture, fin janvier, c'est un bien sombre tableau que le nouveau président Joe Biden a dressé de la réalité de la nation américaine. Un pays durement touché par la pandémie, avec plus de 460 000 morts, alors que le virus continue de circuler activement. Et un pays secoué par l'une des crises sociales les plus graves de son histoire, car malgré leur richesse, les États-Unis restent un des pays les plus inégalitaires de la planète, avec des mécanismes de redistribution faibles, un accès à la santé coûteux pour ceux qui ne bénéficient pas d'une bonne assurance maladie. Pour tous ces Américains qui perdent leur emploi, la situation est donc particulièrement précaire et beaucoup risquent de basculer dans la pauvreté quand certains n'y sont pas déjà depuis longtemps. Alors comment la nouvelle administration compte-t-elle répondre à l'urgence sociale? Combien de temps l'État aura-t-il les moyens de soutenir ces millions d'Américains qui ne survivent déjà que par les aides au chômage et programmes alimentaires décrétés dans l'urgence? Quels risques aussi à long terme sur des questions cruciales telles que l'accès au logement, à l'éducation, à la santé? Et enfin, cette crise est-elle l'occasion de repenser peut-être le rôle de l'État dans la société, voire de renforcer les mécanismes de solidarité comme le souhaiterait en tout cas une partie de la gauche américaine? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Romain Huret. Bonjour Romain Huret.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes historien des États-Unis, directeur d'études à l'EHESS. C'est un double plaisir de vous avoir. D'abord parce qu'on vous aime bien, on aime bien vous entendre, mais aussi parce que vous êtes avec nous en studio. Alors, masqué évidemment, mais c'est le grand retour des invités en studio. Culture Monde se déconfine un peu. Aux États-Unis, Romain Huret, on sait que la situation sociale dépend très largement de l'emploi. En gros, tant que vous avez un travail, ça va à peu près, ça peut tenir, mais dès que vous le perdez, tout s'effondre et très rapidement, on peut basculer dans la pauvreté. Quand on regarde un peu les choses, alors bien sûr, au début de la crise sanitaire, on a vu une explosion du chômage, mais quand on regarde les choses là, sur le temps plus court, sur les périodes récentes, on voit que les choses commencent à s'améliorer. Les inscriptions au chômage commencent à reculer puisque pour le mois de janvier, le taux de chômage s'est établi à 6,3% et on était à 6,7% en novembre et en décembre. Donc ça baisse. Est-ce que ça veut dire que le plus dur de la crise sociale est derrière nous?
C'est très très difficile à dire. Je crois que personne aujourd'hui n'est capable de prévoir ce qui va se passer, hein, puisque les États-Unis et le monde entier sont dans une période tout à fait exceptionnelle. Il est possible que les choses reprennent très rapidement, hein. On pourra avoir une lecture optimiste de la crise. Et vous l'avez rappelé, si l'économie repart et si le taux de chômage baisse, ça veut dire que tous les filets de sécurité qui sont liés à l'emploi, hein, pourraient repartir également. Donc ce serait une lecture extrêmement optimiste. Mais je crois qu'il faut se garder de toute prévision, optimiste ou pessimiste. La reprise économique, la fin de la pandémie sont extrêmement difficiles à prévoir. Donc,
les prévisions, c'est toujours très difficile, mais en revanche, ce qu'on peut regarder, c'est le passé. Aujourd'hui, on a à peu près 10 millions de personnes qui sont sans emploi. On a 18 millions environ de personnes qui bénéficient d'un mécanisme d'aide, de chômage. Quand on regarde le passé, combien faut-il de temps pour retrouver les niveaux d'avant-crise. Que nous dit l'histoire sur ce point-là?
L'histoire dit qu'il faut, du temps, il faut une dizaine d'années avant que les choses se stabilisent. Mais surtout, je crois qu'il est important de comprendre que derrière la crise actuelle, la crise de la Covid, il y a une autre crise sanitaire aux États-Unis, une crise économique, hein, que des économistes, des sociologues, des historiens ont très bien documenté. Hein. Un couple d'économistes parle de mort du désespoir, hein, pour évoquer la crise avant la crise. Et donc le défi de l'administration Biden est de gérer ces deux crises. Et on sait que l'épidémie arrive à révéler tous les défauts, tous les dysfonctionnements de nos systèmes. Hein. On voit très bien comment en France ou ailleurs, hein, l'épidémie aiguise ce qui existait avant. Et donc là, les États-Unis sont confrontés à une double crise sanitaire, ce qui en fait une exception très intéressante dans le monde. Hein. Et on pourrait avoir une évolution peut-être dramatique dans ce sens-là, puisque même si la crise de la Covid venait être résorbée, il y a derrière une autre crise qui est latente, hein, qui est présente, qu'on pourra évoquer éventuellement.
Ouais,
et donc le pays est confronté, et l'administration Biden, hein, à un défi gigantesque. Hein. Il va falloir d'abord soigner la population, hein, trouver les moyens de faire face à cette épidémie, et ensuite d'affronter des courbes démographiques, des taux de mortalité qui sont anormaux pour un pays comme les États-Unis. Hein. Et la dégradation a commencé il y a une quinzaine d'années. Et les conséquences, hein, de cette double crise sanitaire sur les mécanismes économiques, sur le marché de l'emploi, sur l'accès à l'éducation, sont extrêmement difficiles à prévoir. Hein. L'histoire nous a appris aussi, hein, et je pense à l'URSS, hein, que la dégradation des indicateurs sanitaires sont parfois annonce, hein, un déclin politique. Hein. Il y a quelque chose, il faut toujours faire attention au taux de suicide, au taux de mortalité, etc. Dans le cas américain, depuis une vingtaine d'années, ils ne sont pas bons, et bien avant la crise de la Covid. Hein. Donc on a là une situation dramatique aux États-Unis. Je pèse mes mots, hein, sans être forcément très pessimiste, mais la situation est très inquiétante. Et on l'a vu d'ailleurs le jour de l'investiture, hein, Joe Biden a beaucoup parlé de guérison, a beaucoup parlé de mort, a beaucoup parlé de penser les plaies de l'Amérique. Le ton était sombre, hein, en dehors de la violence et des troupes trumpistes. Il y avait malgré tout une ambiance extrêmement solennelle, hein, conscient. L'administration Biden est très consciente, hein, des difficultés qui sont très nombreuses et des strates qui s'accumulent aux États-Unis. Et donc les indicateurs sont à prendre très au sérieux.
Oui, d'ailleurs, ce livre que vous mentionniez, qui a été publié l'année dernière et qui a provoqué beaucoup de débats du côté des États-Unis, arrive bientôt en France. Il va être publié là à la fin du mois au PUF, traduit en français. On va y revenir justement, parce qu'effectivement, vous avez raison de rappeler qu'il y a deux crises au fond, une crise conjoncturelle et une crise systémique. Restons sur la crise conjoncturelle. Romain Huret, il y a là un nouveau président qui est arrivé avec dans ses valises, si je puis dire, un plan précisément pour essayer de répondre à cette crise sociale. Je crois que c'est un plan de 1900 milliards de dollars. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'il y a dedans, et en particulier sur les questions qui nous intéressent, c'est-à-dire les questions sociales, qu'est-ce qui a été prévu pour ça? Et est-ce qu'on est certain désormais que, compte tenu de la majorité dont il dispose, ce plan va passer tel quel?
C'est un dispositif d'urgence. Hein. On a dans tous les pays... Hein, un dispositif du quoi qu'il en coûte, hein. Il faut là aider les entreprises, aider les individus, augmenter les coupons alimentaires. Vous l'avez dit dès le départ, hein. Beaucoup d'Américains aujourd'hui ne vivent que des coupons alimentaires, et c'était une des premières décisions de l'administration Biden, hein. Les fameux food stamps, hein, qui sont essentiels dans la vie quotidienne aujourd'hui de centaines de milliers d'Américains et de familles qui ne vivent que de cela, qui mangent uniquement grâce aux coupons alimentaires, qui permettent d'acheter de la nourriture nécessaire au quotidien.
Mais sur ce point, qu'est-ce qui posait problème? Parce qu'effectivement, c'est l'un des premiers décrets pris par Biden. Mais qu'est-ce qui ne marchait pas ou dysfonctionnait? Qu'est-ce qu'il a voulu améliorer sur cette question de l'aide à l'alimentation, de l'aide alimentaire?
C'est simplement que l'administration Trump avait très fortement réduit le montant alloué par le gouvernement fédéral aux coupons alimentaires.
D'accord, donc il a remonté les
prix. Et donc il a remonté en estimant que c'était essentiel, hein, qu'il n'y avait pas du tout à discuter, qu'on n'était pas dans une réflexion idéologique ou politique sur le sens même de l'aide alimentaire et la prise en charge des plus pauvres. Hein. La crise sanitaire, justifiait, hein, que de toute façon une entorse soit faite à tout débat idéologique. Et c'est le pari de Biden, là, c'est de convaincre tout le monde que dans cette période exceptionnelle, comme l'histoire l'a montré aux États-Unis, il est indispensable d'aller au-delà des divisions idéologiques, hein, et des réflexions sur la prise en charge des plus démunis, l'individualisme, les difficultés psychologiques des pauvres qui les empêcheraient de se réinsérer sur le marché de l'emploi. Biden et son administration sont en train de dire pour l'instant c'est quoi qu'il en coûte. On va payer, il faut relancer la machine économique et venir en aide de manière très urgente aux plus démunis, d'où le chiffre très important que vous évoquez. Et on reparlera de la question de la dette plus tard, je crois. Mais en tout cas, un geste fort de l'administration Biden pour tenter de mettre un terme à cette crise.
Il passera tel quel ?
À nouveau, je me méfie toujours des prévisions. Je crois que là, il y a une prise de conscience réelle de la gravité du moment. Malgré tout, les divisions partisanes qui ont été très violentes au début du mois, au mois de janvier, ont fait comprendre, je crois, à beaucoup d'Américains que le temps n'est plus du tout aux divisions, que là, la menace est réelle. Les chiffres sont inquiétants.
Vous faites référence, aux tensions entre, disons, l'aile plutôt centriste du Parti démocrate et l'aile gauche.
Non, je parlais de tensions politiques liées à la transition qui ont fait comprendre à beaucoup de gens que le temps des divisions aussi fortes et d'une violence politique était peut-être totalement délirant dans un contexte épidémique. Et Biden a annoncé des chiffres dramatiques si rien n'était fait. Il a alors que son prédécesseur avait tendance à minimiser la crise, à évoquer la capacité des Américains à faire face, la force physique, mettant en scène sa propre force physique face à l'épidémie. Je crois que là, il y a eu des mots, il y a des chiffres qui étant avancés. Il y a un retour de la science aussi à la Maison Blanche et dans l'administration, avec des courbes, avec des données qui sont inquiétantes si rien n'est fait. Et je crois que là, il y a une prise de conscience dans le pays. Donc on peut imaginer que beaucoup d'élus acceptent de venir en aide au pays en votant ce plan.
On entend que la situation est évidemment particulière et en même temps, on sait bien que la politique politicienne peut assez rapidement reprendre le dessus. Et en la matière, sur les questions sociales, c'est vrai qu'il existe des tensions, en tout cas des divergences de points de vue entre l'aile centriste du Parti démocrate représenté par Biden et disons l'aile plus à gauche qui, par ailleurs, considère, je crois, qu'elle n'est peut-être pas incarné dans ce gouvernement à la hauteur de ce qu'elle a permis à Biden de l'emporter. On va formuler les choses comme ça. Quand on regarde les choses, Romain Huret, du côté de Biden, de ses aspirations, est-ce que par exemple les nominations sur les secrétariats liés aux enjeux très sociaux, que sont la santé, l'éducation, le logement, est-ce que ces nominations-là montrent de la part de Biden l'ambition justement de porter très haut ses ambitions sociales?
Alors, il y a deux choses dans votre question. Il y a d'abord l'administration Biden et Biden lui-même sont des centristes. Revendiqués. Et les hommes et les femmes qu'il a nommés à la tête de l'administration sont des experts, des professionnels extrêmement compétents, qui maîtrisent parfaitement leur sujet et qui, jusqu'alors, ont été plutôt centristes dans leur pratique de l'administration ou de la politique. Il y a un deuxième volet à votre question, c'est l'aile gauche. Et comme vous l'avez dit, l'aile gauche pousse pour davantage de réformes et estime qu'elle est mal représentée et qu'il y a un risque que, passé la crise, passé le plan d'urgence, on retrouve un peu un gouvernement centriste, comme certains l'ont reproché à Barack Obama avant. Ceci étant dit, on est aussi dans une configuration qui rappelle l'histoire, et vous évoquiez le poids de l'histoire, puisqu'il ne faut pas oublier que l'administration Roosevelt, Roosevelt lui-même au départ, est un centriste et qu'il a été poussé par sa base, poussé par l'aile gauche du parti, poussé par les syndicats, poussé par les ouvriers, à se radicaliser. Et on voit très bien, les historiens l'ont bien montré, comment progressivement ce gouvernement, au départ plutôt centriste, bascule vers la gauche et adopte de très grandes lois sur la sécurité sociale, sur la représentation syndicale, etc. Le salaire horaire, enfin des très très grandes réformes dans les années 30, poussées par la base. Donc on est peut-être dans
une
configuration
un
identique. Ouais. Mais la seule chose, et si l'histoire doit apprendre une chose à la gauche, c'est qu'il ne faut pas qu'elle baisse les bras. C'est que c'est maintenant que commence son travail, en quelque sorte. Il ne faut pas simplement se contenter de mener Biden à la présidence. Il faut occuper le terrain, éventuellement manifester, éventuellement revendiquer sur un certain nombre de points, la dette étudiante, le salaire horaire. Enfin, il y a des grands souhaits de la part de la gauche qui a aidé Biden à s'emparer du pouvoir. Je crois que là, il faut être très présent, il faut occuper le terrain, occuper les médias. Et l'histoire nous a appris que lorsque la gauche fait cela, elle peut pousser un président plutôt centriste à adopter des mesures étonnante hein, au regard d'une tradition démocrate depuis une trentaine d'années qui est très ancrée dans une social-démocratie un peu molle, disent certains, hein, mais qui a toujours peur de toucher hein, aux plus riches, aux détenteurs du capital aux États-Unis, et qui donc se contente de demi-mesures hein, qui ne plaisent pas du tout à la gauche américaine.
Et vous pensez que Biden, lui, serait enclin à faire ça? Parce que effectivement, vous avez raison, on a d'un côté cette crise sociale qu'on vient de décrire, mais de l'autre côté, on a une situation économique qui n'est pas aussi dramatique pour tout le monde. Quand on regarde, par exemple, les chiffres d'affaires des acteurs de l'Internet, des fameux GAFA, l'année 2020 a été excellente, merci pour elle. Je crois que les actions ont monté en moyenne d'une trentaine de pourcents sur l'année 2020, donc tout le monde se porte très bien. Donc, on voit bien qu'on a là une machine économique aux États-Unis qui est une machine à produire des inégalités. Quand on regarde aussi, par exemple, l'évolution de la part du PIB détenu par les 1% les plus riches, on voit que ça fait 30 ou 40 ans que ça ne cesse d'augmenter, et ça s'est encore aggravé, si je puis dire, sur les derniers mois. On voit bien que là, il y a quelque chose de systémique auquel il va falloir s'atteler. Est-ce que un homme comme Biden est prêt à le faire? Par exemple, on a beaucoup parlé de la possibilité d'un éventuel démantèlement, certains en tout cas, de ces GAFA. Est-ce que vous pensez qu'il est homme à engager ce type de combat qui est un combat colossal?
Oui, c'est un combat colossal, et on sait qu'un président il perd beaucoup de son capital politique, hein, puisqu'il faut passer des heures avec les élus hein, pour que les projets de loi soient votés. Mais à nouveau, hein, l'histoire a montré que des tabous hein, politiques, hein, là vous en avez évoqué un certain nombre, l'imposition des plus riches par exemple, qui est un tabou absolu aux États-Unis depuis 30 ans. Hein. Aucun président depuis 30 ans n'a voulu augmenter l'imposition des plus riches, avec des taux d'imposition qui sont extrêmement faibles hein, par rapport à ce qu'ils ont été. Hein. Je rappelle que dans les années 50, hein, les taux d'imposition marginaux les plus élevés étaient de 91% hein, pour les revenus les plus riches. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et il y a vraiment, même Obama au départ avait évoqué la possibilité, il y avait renoncé, comme François Hollande en France. Hein, on a un tabou absolu hein, d'une partie de la gauche hein, qui ne veut plus, qui ne croit pas à l'efficacité de la mesure. Est-ce que Biden sera capable de le faire? L'avenir nous le dira, mais en tout cas, je pense que l'Amérique, de toute façon, ne pourra pas faire l'impasse hein, sur ce type de décision, puisque les milliards qu'on évoque là vont être financés par la dette. Hein, si les impôts ne sont pas augmentés et si l'aberration fiscale actuelle, hein, puisque même les plus riches avouent que le système est complètement aberrant, puisqu'ils payent souvent moins d'impôts que leur secrétaire. Donc,
Non, mais ça veut dire qu'on l'a déjà fait dans l'histoire américaine, parce qu'on a parfois cette idée au fond que ça serait presque dans l'ADN des États-Unis que de ne pas faire de redistribution. C'est plus compliqué que ça. C'est déjà arrivé.
Non, et on l'a fait dans l'histoire des États-Unis. Hein. On a eu une période et l'économiste Thomas Piketty l'a très bien montré, hein, une sorte d'âge d'or hein, de redistribution des inégalités, avec un pays qui a été celui dans le monde occidental qui a le plus taxé les plus riches. Hein. Il y a eu une imposition extrêmement...
C'est complètement contre-intuitif.
C'est contre-intuitif et on l'oublie, mais une partie de la gauche se souvient très bien de cela, qu'il y a eu des moments où véritablement on a entamé un bras de fer avec les monopoles. Hein. Alors, c'était pas Facebook ou Google, hein, mais la gauche américaine a entamé un bras de fer, les élus ont entamé un bras de fer et ont gagné le bras de fer en démantelant parfois ces monopoles, en obtenant une augmentation d'impôts pour les entreprises et pour les particuliers. Donc il y a rien d'inéluctable, hein. Il n'y a pas d'ADN américain qui empêcherait le pays. Et on a vu quelqu'un comme Bernie Sanders, hein, qui a été un candidat très à gauche, hein, qui aurait pu être choisi par le Parti démocrate et qui est l'héritier d'une tradition plus interventionniste, plus redistributive. Donc, et beaucoup pensent que la jeunesse est peut-être l'avenir du pays, et la jeunesse est plus sensible à la question de la solidarité, de la redistribution, et que peut-être l'Amérique pourrait basculer vers des régimes très, très différent de ce qu'elle a connu jusqu'alors.
Oui, et ça d'ailleurs avant le Covid. On se souvient par exemple des mobilisations Occupy Wall Street. On était dans quelque chose de cette nature-là. Romain Huret, il y a un point sur lequel il faut qu'on s'attarde un tout petit peu parce que qui pourrait dans les mois qui viennent devenir un problème colossal pour les États-Unis, c'est la question du logement. On a des gens qui perdent leur travail. Quand on perd son travail, ça veut dire qu'on peut plus rembourser les crédits de la maison et que très vite, là encore, on peut la perdre. On a évidemment en tête, une fois encore, l'histoire nous rattrape, la crise de 2007-2008, ce que ça avait produit pour les gens et surtout la crise du logement qu'il y avait eu à la clé. Est-ce qu'on est dans un risque qui est comparable à celui-ci ?
Oui, et à nouveau, le risque ne date pas de l'épidémie, donc l'épidémie va le renforcer. Hein. Beaucoup de travaux ont montré que la crise du logement ne s'est pas arrêtée avec 2008, hein, que la reprise a été partielle, que beaucoup d'Américains sont confrontés à un risque très fort de déclassement qui est à la fois très très concret, très quotidien, hein, mais qui est aussi symbolique. Puisqu'on sait à quel point le logement et la maison individuelle hein, fait partie du rêve américain. Donc ne pas avoir accès à cette maison individuelle est un signe très fort, hein, très visible du déclassement. Il y a eu des travaux extrêmement intéressants qui ont montré par exemple l'augmentation considérable depuis 20 ans du nombre d'expulsions d'Américains. Hein. Il y a eu une épidémie des avis d'expulsion. Il y a eu un très beau livre du sociologue Matt Desmond sur cette question hein, qui a montré que on a quelque chose, on a un problème social qui n'existait peut-être pas autant il y a 40 ans aux États-Unis et qu'il y a un marché de l'expulsion, il y a un marché de l'habitat précaire. On connaît par les séries télé ces trailer parks, hein, ces camps pour de caravanes hein, pour les plus démunis, mais qui sont des lieux, et Matt Desmond l'a très bien montré, d'une violence extrême, hein, où les plus démunis, et notamment les femmes afro-américaines, hein, sont victimes d'expulsions, sont victimes de déplacements réguliers, et avec des conséquences pour les enfants, parce que perdre son logement, ça veut aussi dire quitter le lieu où vous habitez, donc déscolariser votre enfant, et le mettre ailleurs, donc se déplacer, trouver un logement précaire, avec toutes les risques sur les de vulnérabilité hein, et de violence, hein, sur notamment pour ces femmes. Et dans son livre, Matt Desmond proposait un plan très ambitieux hein, pour résoudre la crise du logement, hein, avec des aides spécifiques, aide juridique, aide sociale, pour notamment aider les plus fragilisés par la crise du logement, qui sont les femmes, hein, éviter ces situations dramatiques qui s'accumulent dans tout le pays. Et donc, pour répondre à votre question, la crise était dense avant
et qu'elle ne fait que s'aggraver. Et Biden pourrait récupérer justement un certain nombre de ses propositions, en tout cas engager un combat dur et combien nécessaire sur le logement.
Ça fait partie des solutions et des projets hein, de l'administration Biden. Et c'est là où il faut aussi relativiser le pouvoir d'administration Biden, hein, puisque beaucoup les États-Unis sont un pays de 50 États, hein, et donc le président n'a pas du tout le même pouvoir centralisateur qu'en France, hein, avec la capacité à imposer des normes lourdes, fortes, hein, depuis Washington. Donc il y a là, et l'administration Biden parie beaucoup sur le retour de l'emploi, puisque l'emploi vous permettra d'avoir accès au logement. Mais malheureusement, on a vu que, comme vous l'avez dit, hein, la crise est systémique, hein, et que beaucoup d'hommes et de femmes ont des emplois précaires, qui ne leur permettent pas d'avoir accès à un logement.
Et donc il n'a pas beaucoup de leviers sur la question du logement.
Il a assez peu de leviers sur la question du logement.
Quand on parle de crise sociale, d'inégalité sociale, on parle forcément, Romain Huret, quand on parle des États-Unis, d'inégalité raciale. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, le Covid n'est pas une exception, puisque quand on regarde les choses, les Noirs et les Latinos, par exemple, sont surreprésentés dans les victimes du Covid. Je regardais hier un papier où, comme par hasard, ils sont sous-représentés, là, en revanche, dans les populations qui ont été vaccinées jusqu'ici, très sous-représentées même. Donc on voit bien qu'il y a un problème d'accès à ces vaccins pour les Noirs et les Latinos. Sur ce point-là, est-ce que Biden a pris des engagements et qu'est-ce qu'il peut faire très concrètement pour essayer de limiter un peu la casse, pour contenir un peu cette tendance qui est que à chaque fois que la paupérisation vient, c'est le titre qu'on a retenu pour cette émission, eh bien, ceux qui sont en première ligne, c'est les Noirs et les Latinos.
Alors c'est pas toujours le cas. Là, c'est le cas et c'est là où les deux crises sont intéressantes à observer de près, puisque la crise des opiacés, la crise du désespoir hein, dont nous avons parlé, a touché davantage les hommes et les femmes faiblement éduqués, blancs aux États-Unis. Hein. On a là une crise qui a touché un peu moins les Latinos et les Afro-Américains. Hein. Par exemple, l'épidémie de suicide hein, qui est très fort depuis une vingtaine d'années, pour des raisons que même les auteurs du livre, hein, Case et Deaton, hein, ont du mal à expliquer hein, pourquoi les suicides sont moins importants dans la population afro-américaine et latino. Il y a des explications culturelles. Hein. Mais en tout cas, on avait là une crise qui touchait davantage le monde ouvrier blanc et très peu éduqué. Et c'est là où c'est très intéressant, puisqu'on voit là la crise de la Covid touche une autre population, donc accumule, et on imagine socialement ce que ça fait, c'est-à-dire que vous avez dans les hôpitaux, pour les plus précaires, les plus démunis, les centres de soins, etc., vous avez des gens qui sont malades, qui étaient malades avant, et on a une autre population qui arrive, qui a, comme vous l'avez dit, peu accès au système de soins, et qui souffre davantage, moins vaccinés, davantage malades, présentant aussi des cofacteurs de morbidité, diabète, obésité, etc., plus élevés que dans le reste de la population, ce qui explique les chiffres que vous évoquez.
5%, juste je les donne, 5% des personnes qui ont reçu une injection, d'accord, sont des Noirs, alors qu'ils sont quoi, une quinzaine de pourcents dans la population au global. Donc on voit qu'elles sont très sous-représentées.
Elles sont sous-représentées, et donc là, il faut espérer, l'administration Biden s'est engagée très fortement à vacciner l'ensemble de la population et à faire le nécessaire pour que la population soit vaccinée.
Sachant qu'on est comme chez nous, c'est-à-dire qu'on a aussi des problèmes, des retards. On avait prévu des rythmes de vaccination, on n'y est absolument pas du tout.
Bon, à nouveau.
Non, mais on n'est pas les seuls.
On n'est pas les seuls. Et je crois qu'il faut être assez prudent aussi sur. On imagine très bien tous les problèmes logistiques posés par une vaccination de cette ampleur. En moins d'un an, on a déjà un vaccin. On est en train de vacciner des millions de personnes. Mais pour répondre à votre question, oui, donc il y a la vaccination, mais il y a aussi l'accès au système de soins qui est important.
On va en parler.
Et là, c'est un enjeu très important.
On va en parler. On va écouter d'abord peut-être justement cet homme que vous évoquiez. Enfin, ils ont écrit l'ouvrage à deux. C'est Anne Case et Angus Deaton, prix Nobel d'économie en 2015. On va l'écouter tout de suite.
Il s'agit principalement d'empoisonnement. On s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que les gens confondent le desktop avec du lait? Évidemment, l'Institut de santé publique classifie les empoisonnements comme overdose de drogue. Il y a assez d'antidouleurs opioïdes prescrits tous les ans aux États-Unis pour permettre à chaque Américain de vivre sous l'influence d'opioïdes un mois par an. Les gens qui avaient de bons jobs dans le secteur industriel, qui bénéficiaient de formation, ces gens avaient l'espoir d'une belle vie pour eux et leurs enfants. Et tout s'est évaporé.
Voilà, Angus Deaton, co-auteur avec Anne Case de cet ouvrage qui est paru l'année dernière, Death of Despair. Là, il parlait, c'était en 2016, mais ça avait commencé par un article et puis ensuite, ils ont écrit un gros ouvrage et qui donc, je l'indique pour les auditeurs parce que je pense que ça sera quelque chose qu'il faudra lire bientôt. Ça va paraître là, la fin du mois, au PUF, traduit en français. C'est mort donc, Romain Huret, lié à la drogue, à l'alcool, au suicide, aux opioïdes, vous l'évoquiez, et une augmentation donc depuis une quinzaine, vingtaine d'années. La grande force, Romain Huret, précisément, de l'ancien président Donald Trump, c'était qu'il était parvenu justement à parler à ces gens-là, précisément. Comment Biden va réussir à parler à ces gens qui sont concernés, ces victimes de cette mortalité du désespoir? Parce que recréer les emplois qui ont été détruits, qui concernent ces gens, ça va pas être une affaire aussi simple que cela.
Il y a déjà recréé les emplois, mais je crois que le vrai problème, il est d'ordre sanitaire et médical. Puisqu'il faut bien comprendre qu'on assiste à quelque chose d'exceptionnel aux États-Unis et en Angleterre, c'est ce que montre Case et Deaton, un retournement de la courbe démographique pour les 35-55 ans. Et historiquement, depuis les années 50-60, cette courbe s'améliore. Les hommes et les femmes âgés de 35 à 50 ans vivent mieux, consomment moins de viande, moins d'alcool, fument moins, etc. Donc on a vu dans beaucoup de pays la courbe baisser. La Suède, la courbe est très très basse, par exemple. Cette population est moins victime d'accidents cardiaques que par le passé. Donc c'est un des signes très très forts de la vitalité démocratique d'un pays, que les 35-50 ans soient en forme et fassent attention à leur santé. Aux États-Unis, ça s'inverse et de manière dramatique. C'est-à-dire la courbe augmente. Et c'est ce que voit Case et Deaton. Ils comprennent pas au départ pourquoi ça augmente aux États-Unis, en Angleterre et ailleurs ça baisse. Qu'est-ce qui se passe? Et ils se rendent compte là de l'ensemble des difficultés que vous avez évoquées. Et c'est là sans doute tout le défi pour l'administration Biden, c'est-à-dire comment vous faites pour empêcher des suicides, comment vous faites pour empêcher des addictions qui sont très fortes, comment vous faites pour empêcher des gens de basculer de la consommation d'opiacés à des drogues dures. Et on sait très bien, et les médecins qui nous écoutent le savent très bien, c'est très très compliqué. Il faut un état social, il faut des dispositifs médicaux qui permettent, dans la durée, dans un temps long, il n'y aura pas de baguette magique. C'est pas simplement le retour à l'emploi ou à des emplois plus stabilisés. Là, on est confronté à une vraie crise sanitaire au sens fort du terme.
Et d'où l'importance de transformer aussi le système sanitaire, parce qu'au fond, c'est ça le cœur du problème d'une certaine manière. C'est pas le seul problème, mais d'ailleurs, c'est l'un des chapitres de ces deux auteurs dans le livre. C'est le système sanitaire qui est absolument à la dérive aux États-Unis. Il faut bien avoir conscience là encore, parce que parfois on imagine qu'au fond on ne dépense rien pour le système de santé américain. C'est tout à fait faux. Quand on regarde la part de ce qui est dépensé aux États-Unis par habitant, c'est absolument colossal. C'est plus que ici en France. Donc il faut bien avoir conscience que c'est pas un problème de moyens, c'est pas seulement un problème de moyens, c'est un problème structurel en fait.
C'est un problème structurel d'accès aux soins aussi dans des zones rurales hein, qui sont très touchées par par les crises que vous évoquez et par la crise de la Covid aussi. Donc il faut absolument repenser hein, l'ensemble du système et l'administration à nouveau. On sait très bien que les lobbies médicaux sont extrêmement puissants aux États-Unis. Donc
ça va être très compliqué.
Ça va être très compliqué et parce que non seulement politiquement ça l'est, mais à nouveau j'insiste, hein, c'est aussi difficile d'un point de vue sanitaire hein, et les études l'ont très bien montré. C'est-à-dire comment vous réinsérer une personne qui a été pendant des années droguée et connaissant victime de très très forte addiction, c'est un travail dans la très très longue durée.
Juste un chiffre parce qu'il est quand même assez parlant. 18% du PIB consacré à la santé en 2017 aux États-Unis. 18% contre 5% du PIB en 1960. C'est-à-dire que ça considérablement augmenté. Autre chiffre que donnent ces deux auteurs dans le livre, 450 millions de dollars, c'est ce qu'ont dépensé les hôpitaux américains en publicité en une année. Ça dit aussi évidemment le fait que eh bien tout n'est pas concentré sur la question justement des soins, mais il y a bien d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, le marketing, le lobbying, etc., etc. On est avec vous, Romain Huret, dans cette série consacrée au Covid, Covid-19, saison 3. On parle ce matin des États-Unis et on va parler en particulier des migrants.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Tengo miedo.
J'ai peur de contaminer ma famille ou d'autres personnes avec le Covid-19. Nous risquons notre vie jour après jour. Je dois continuer de travailler pour subvenir à mes besoins, à ceux de ma famille, pour payer le loyer. Le loyer n'attend pas. Notre Seigneur nous accorde sa bénédiction aujourd'hui, afin que nous revenions en bonne santé, qu'il nous protège du Covid-19.
Voilà, témoignage de Josefino Cervantes, un ouvrier agricole qui vit depuis 18 ans dans l'État de Californie, qui est toujours sans papier, sans assurance santé et qui, eh bien, s'il contracte le Covid-19, ne recevra pas d'argent. Reportage, extrait d'un reportage diffusé sur Arte. On va parler justement de ces immigrés, ces migrants illégaux. Le 2 février, le nouveau président Biden a présenté une ambitieuse réforme de l'immigration, comprenant la possibilité de régulariser, voire de naturaliser des milliers de personnes qui vivent actuellement et de manière illégale, bien que depuis des années sur le sol américain. Bonjour James Cohen.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes un spécialiste des questions migratoires aux États-Unis, professeur à l'Institut du monde anglophone de l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Les migrants illégaux ont été en première ligne dans cette crise du Covid. Alors, soit parce qu'ils ont perdu leur emploi, soit parce que leur travail ne pouvait pas se faire à distance, soit parce qu'ils ne bénéficient d'aucune assurance maladie. Là, il va y avoir une réforme de l'immigration. Qu'est-ce que ça pourrait changer en particulier pour cette population, ces migrants illégaux, James Cohen?
Écoutez, ça pourrait changer beaucoup de choses à condition que la réforme ait lieu. Et là, il y a de quoi être sceptique. C'est-à-dire, alors je pense qu'à court terme, il y aura des mesures qui permettront à des immigrés, même sans papier, au moins de se faire vacciner. Ceci est déjà prévu, il y a un ordre exécutif de Biden en direction de la sécurité territoriale, Homeland Security, pour veiller à ce que les immigrés, même sans papier, soient vaccinés. Mais ensuite, la réforme de fond de l'immigration qui permettrait à 10 ou 11 millions de sans-papiers d'avoir un statut, d'être régularisé et avoir une voie vers la citoyenneté, ça me paraît malheureusement beaucoup plus problématique.
Mais pour quelle raison Biden a la majorité dans les deux chambres?
Oui, mais c'est une majorité trop courte au Sénat. Pour ce type de mesure, il faut une super majorité de 60 sénateurs au Sénat et les Républicains vont bloquer. C'est fatal. Oui.
Et les mesures de court terme, James Cohen, il y en a qui pourraient être prises par décret rapidement?
À court terme, il y a très certainement des choses qui peuvent être faites. La seule mesure dont je suis absolument, dont je suis déjà au courant, c'est la question du vaccin, parce que il y a eu côté républicain un peu partout des objections formulées à l'idée qu'on puisse vacciner ou soigner des sans-papiers, mais l'administration Biden a dit des choses explicites là-dessus. Apparemment, c'est dans les ordres qu'on donne, mais. À part cela, oui, bon, je pense que les mesures qui s'appliquent à toute la population vont pouvoir s'appliquer aux immigrés à court terme pour la crise sanitaire, pour la crise...
Donc ça veut dire, James Cohen, si je comprends bien, qu'on n'aura pas de grande vague de régularisation, voire de naturalisation, tout cela est absolument exclu. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que on va... poursuivre sur le chemin de la lutte contre l'immigration illégale qui avait été entamée par Trump, parce que on va cesser avec cela et on va prendre le chemin d'une forme de statu quo, c'est-à-dire que les millions, alors ils sont évalués à peu près 11 millions de personnes qui vivent aux États-Unis sans papier, vont rester pouvoir travailler et rien ne va changer pour eux ou presque. Ça va être quoi en fait le scénario?
C'est ça le danger. Je pense que les gays sans-papiers, beaucoup d'entre eux, ou en tout cas les jeunes d'entre eux, bénéficient d'un statut qui était donné par un ordre exécutif de Obama en 2012. Le programme DACA va être reconduit. Trump a essayé de fermer ce programme. Il n'a pas réussi, mais il a réussi à empêcher de nouvelles personnes d'entrer dans ce programme. Maintenant, ce programme va permettre à des jeunes sans-papiers qui sont venus aux États-Unis avec leurs parents d'avoir au moins une présence tolérée, c'est-à-dire ils vont pouvoir avoir un emploi et accéder à des services, mais ceci n'est que temporaire. Pour avoir un statut plus permanent, il faut une loi du Congrès, et c'est là que le bât blesse.
James Cohen, si on dépasse un peu la rhétorique anti-migrant de Donald Trump, sur laquelle il a assez largement surfé, et qu'on regarde les choses un peu froidement, un peu objectivement, quel bilan on peut faire de son administration en termes de régularisation, voire de naturalisation, et puis en phase d'expulsion? Comment est-ce que vraiment il y a une rupture vis-à-vis de ses prédécesseurs, ou au fond, on est dans une forme de continuité, au-delà des discours?
Les deux choses sont vraies. Il y a plus de continuité qu'on ne croit, mais il y avait un discours d'une telle hargne qu'on peut avoir l'impression qu'il est fondé aussi, que on était dans quelque chose de qualitativement autre. Trump avait pour principal conseiller en matière d'immigration le célèbre Stephen Miller, qui était une sorte de raciste xénophobe professionnel, qui préparait depuis toute sa carrière le moment où il pouvait manipuler la bureaucratie fédérale pour fermer toutes les portes possibles aux immigrés, non seulement illégaux, mais légaux aussi. Ce régime-là est terminé, on va revenir à quelque chose d'un peu plus normal, il va falloir du temps. Par exemple, à la frontière, Trump a réussi à bloquer l'entrée sur le territoire de tous les demandeurs d'asile qui étaient sommés de rester au Mexique ou même de rester dans leur pays d'origine, baptisé pays tiers pays sûr. Enfin bref, on va revenir à une normalité légale, mais il faudra du temps et il y aura très certainement une accumulation de nouveaux demandeurs d'asile à la frontière dans les semaines à venir.
James Cohen, toute dernière. Dernière question sur l'effet Covid, si je puis dire, à la fois sur le court terme et peut-être plus à long terme aussi. Dans quelle mesure est-ce que cette crise sanitaire a ralenti, voire carrément stoppé les flux migratoires? Et est-ce que ça pourrait se poursuivre? Est-ce qu'il pourrait y avoir un effet un peu plus durable avec finalement des candidats à l'immigration qui se diraient « bon, le rêve américain, c'est pas ça. Peut-être faut-il revoir les choses. » Est-ce qu'un effet à long terme, c'est possible, James Cohen?
Oui et non, ça dépend des pays. Je pense que pour le Mexique, les flux sont arrêtés déjà depuis longtemps. La solde migratoire avec le Mexique est proche de zéro ou même négatif. Mais par contre, les pays centro-américains, les pays en crise permanente, vont continuer à expulser du monde. Aujourd'hui, sachant que Trump s'en va et que Biden arrive, les candidats à l'immigration du Salvador et du Guatemala et du Honduras continuent à monter vers la frontière en passant par le Mexique leur crise à eux n'est pas résolue.
Oui, bien sûr. Romain Huret, peut-être petite réaction avant de passer à la question de l'éducation. On va accueillir une nouvelle invitée.
Non, juste ce que dit Jim est tout à fait juste. Hein, j'ajouterais peut-être la question des cerveaux, puisque ce qui fait partie aussi de la force migratoire américaine a longtemps été l'arrivée massive de gens très diplômés dans les universités américaines, qui ont très largement aidé au développement technologique, scientifique, économique des États-Unis. Hein. Et donc là, on peut, si on réfléchit peut-être dans la durée moyenne, aux conséquences de l'épidémie, on peut s'interroger aussi sur la manière dont beaucoup de laboratoires aux États-Unis, qui étaient extrêmement tributaires de gens très compétents qui allaient travailler à Yale ou à Princeton. Je pense que l'administration Biden va veiller sans doute à relancer ce que Obama avait un peu limité.
Merci beaucoup, James Cohen, d'avoir été avec nous ce matin. Allez, on parle de l'éducation, on va parler de ces milliers d'écoles qui ferment et donc qui laissent des milliers d'écoliers, de lycéens sur le carreau d'une certaine manière.
Ce matin, notre bureau a intenté une action en justice devant la Cour supérieure de Californie contre le Conseil de l'éducation de San Francisco et le district scolaire unifié de San Francisco pour son incapacité à formuler un plan destiné à permettre aux 54 000 élèves du district scolaire unifié de San Francisco de reprendre l'apprentissage en classe aussi vite que possible. Le Code de l'éducation de Californie exige que les districts scolaires de tout l'État adoptent un plan de continuité de l'apprentissage et de présence, définissant les mesures que le district scolaire doit prendre pour offrir un enseignement en présentiel dès que possible.
Voilà, cette voix qu'on vient d'entendre, c'est celle de Denis Herrera, le procureur de la ville de San Francisco. Le 3 février, il annonçait que la ville portait plainte contre le district scolaire de l'État de Californie. Objectif, forcer l'organisme à rouvrir les établissements publics. Bonjour Esther Sina.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes historienne des États-Unis, enseignante à l'université Sorbonne, et puis vous êtes une spécialiste de l'éducation. Le procureur de San Francisco, qui là, porte plainte pour demander la réouverture des écoles publiques de la ville, il a une chance d'obtenir gain de cause. Sur quelle base un juge pourrait ordonner aux établissements publics d'accueillir à nouveau ses élèves?
Alors, il va y avoir un accord qui va être trouvé. C'est déjà en cours de négociation. Donc la base de ce procès, c'est bien le fait que le district scolaire ait fermé ses écoles et surtout n'ait pas de plan de réouverture concret, alors que une loi de Californie qui est récente, qui date de la pandémie, a ordonné à tous les districts scolaires de mettre en place un plan d'action pour la réouverture des écoles. Mmh. Là, il semblerait que les négociations aboutissent bientôt. Alors la réouverture des écoles serait déterminée selon le nombre de cas qu'il y a à San Francisco.
Esther Sina, il faut faire un peu de mécanique institutionnelle, parce qu'aux États-Unis, ce qu'on appelle les districts scolaires, c'est des échelons institutionnels tout à fait à part, qui ne dépendent pas directement de l'échelle municipale, qui dépendent des États, mais qui ont quand même une certaine forme d'autonomie, ce qui fait qu'en réalité, chaque district est très indépendant, et on a quasiment autant de systèmes éducatifs qu'on a de districts scolaires. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est une immense disparité en termes de financement. Pour quelle raison, Esther Sina?
Oui, c'est même rien que pour comprendre le procès de San Francisco, il faut comprendre comment une ville peut attaquer en justice son district scolaire, et c'est parce que les deux entités sont absolument complètement séparées. Il y a 14 000 districts scolaires aux États-Unis, et comme vous dites, c'est comme si on avait 14 000 systèmes éducatifs différents. Et les disparités sont énormes entre ces districts pour une raison assez simple, c'est que la plupart d'entre eux, là encore ça dépend des États, mais la plupart d'entre eux reçoivent leur financement de l'impôt foncier. Il y a donc une corrélation directe entre la richesse d'un district scolaire, donc un quartier riche dont les maisons ont une valeur immobilière importante, va avoir un budget scolaire beaucoup plus important qu'un quartier pauvre. Il y a eu un procès qui a fait date en 1973, un procès du Texas où justement des avocats ont attaqué en justice ce système même. Il y avait un district très pauvre qui s'appelait Edgewood à San Antonio qui était en contraste frappant avec le district voisin Alamo Heights, un district très riche. Et quand je dis voisin, c'est qu'il n'y avait qu'une rue qui séparait les deux. La Cour suprême a tranché en décidant que, comme l'éducation n'était pas un droit constitutionnel aux États-Unis, on ne pouvait pas considérer que c'était une violation des droits que d'avoir un système aussi inégalitaire.
Ouais, c'était ce procès San Antonio versus Rodriguez où effectivement la Cour suprême tranche considérant que oui bien sûr c'est un système très inégalitaire mais pour autant il est parfaitement légal. Mais quand même Esther Sina, je voudrais bien comprendre les choses parce qu'on voit que les découpages des différents districts scolaires, on le voit notamment avec ce procès-là, sont absolument essentiels et qui conditionnent cette propension d'un territoire donné à reproduire plus ou moins des inégalités sociales et même raciales, parce que souvent, c'est comme toujours, ça se croise aux États-Unis par le truchement de cette scolarisation. Qui décide de ces découpages?
Là encore, ça dépend des États. Il y a des États dans lesquels ce sont des décisions locales, donc c'est le district scolaire lui-même qui établit ses frontières. Parfois, il y a une entité intermédiaire à l'échelle du comté, par exemple, et parfois, c'est la législature, c'est dans l'État que ces décisions.
Mais je ne comprends pas où est la décision politique. Enfin, je ne comprends pas comment on décide, de qui va décider. Enfin, il y a quelque chose qui m'échappe.
Là, ça dépend des États. Chaque État, en fait, a un système éducatif et attribue l'autorité de ces décisions à des entités différentes.
Mais est-ce que les habitants ont un poids là-dessus, par exemple?
Alors, les habitants ont un poids. Parfois, ils ont un poids indirect, puisqu'ils élisent, dans certains États, encore une fois, on ne peut pas généraliser, ils élisent le conseil scolaire, par exemple, ou par exemple, les autorités du comté qui prennent ces décisions, mais c'est un jeu électoral essentiel. Et vous parlez plutôt du rêve américain et du fait d'acheter une maison et c'est cet idéal du rêve américain, mais c'est totalement lié à l'enjeu scolaire puisque encore on choisit une maison dans un district, les frontières sont primordiales et la valeur de la maison est influencée par la qualité des écoles et vice versa puisque la valeur de la maison va directement impacter le budget scolaire.
Oui, donc tout l'enjeu évidemment c'est de casser ce cercle. On change de ville, Esther Sina. On regarde du côté de New York. En novembre dernier, des étudiants de la ville de New York ont intenté un procès à la ville de New York contre la manière dont on découpe justement ces fameux districts scolaires. Et quelques semaines plus tard, son maire, Bill de Blasio, réputé pour être quand même un homme progressiste, a annoncé un certain nombre de changements dans le processus d'admission des élèves. Il a dit, je le cite, « Quand je quitterai la mairie, je pense que nous aurons mis la ville sur une voie très différente s'agissant des systèmes de sélection des écoles. Jusqu'où on peut vraiment espérer des changements ? Et concrètement, quel autre système on peut imaginer ?»
Alors, le cas de New York, il est absolument fascinant, puisqu'en fait, ce n'est pas exactement ça. New York est un seul district scolaire. La ville de New York est un seul district scolaire. Donc, il n'y a pas ces frontières-là. Et en fait, le district scolaire de New York, pour pouvoir tout de même créer des distinctions entre les écoles, a décidé que ce ne serait pas les frontières du district qui sépareraient, qui catégoriseraient les élèves, mais des politiques d'admission dans les écoles avec des tests qu'on connaît, des tests standardisés, etc. Et ça permet aux élèves les plus avantagés de pouvoir s'exercer davantage avec du tutorat privé, etc. Donc un groupe d'élèves de New York a décidé d'attaquer ce système en justice. Et eux, à la base, ce groupe, c'est intéressant parce que c'est un groupe qui s'intéresse à la ségrégation raciale dans les écoles de New York. Donc, pour eux, les admissions, la sélection à l'entrée de certains lycées prestigieux de New York, c'est une question raciale. Et ils ont les chiffres pour prouver leur argument. Et pendant la pandémie, donc, le district scolaire de New York a décidé de suspendre ces tests-là. Pour l'instant, c'est une décision temporaire. Le temps de la pandémie, ces tests n'existent plus à la sélection. C'est une sélection qui se fera sur dossier. Et maintenant,
ce qui ne change pas grand-chose, ce qui ne change pas fondamentalement les choses, en réalité. Il y a un système quand même qu'on a introduit, c'est un système par loterie, où en fait, on attribue un peu les places au hasard. C'est quelque chose qui a été essayé, expérimenté à New York. Ça marche? Est-ce que ça permet d'engager la déségrégation, parce que c'est ça l'enjeu.
Le système de loterie, notamment à New York, il est employé pour des écoles absolument particulières, puisque ce sont des charter schools, des écoles qui sont hybrides, moitié privées, moitié publiques. Ce sont des écoles publiques, mais gérées par des institutions privées, déléguées en fait à des entreprises privées. Et ces écoles, elles sont très demandées, elles existent à New York. Alors ça dépend complètement des États. Il y a des États dans lesquels ce sont des écoles dont la plupart des élèves sont blancs. À New York, la plupart des élèves des charter schools sont des élèves noirs, des élèves, par exemple, à Harlem, c'est un quartier où il y a énormément de charter schools, et elles sont très demandées puisque l'offre purement publique, entre guillemets, est dans un état déplorable. Et donc, pour faire une sélection, il y a une loterie, et c'est un système voilà de sélection aléatoire qui ne satisfait pas, en tout cas, les populations aux alentours.
Oui, et puis par ailleurs, qui est marginal. Romain Huret, peut-être, toute dernière action en guise de conclusion sur ce système éducationnel aux États-Unis qui est, on le voit une fois encore, extrêmement inégalitaire, une machine à produire des inégalités.
Machine à produire, vous avez raison, et Anne Case et Angus Deaton disent bien dans leur livre « Les morts du désespoir » que la principale variable, selon eux, est le capital éducatif, c'est-à-dire plus vous êtes éduqué, plus vous vivez longtemps et mieux aux États-Unis, et moins vous l'êtes, et plus les conditions de vie sont précaires et difficiles. Et donc, ce que vient de dire notre collègue est extrêmement inquiétant sur la suite. C'est-à-dire qu'on est en train de produire les pauvres de demain et les inégalités de demain. Et si on réfléchit aux conséquences long terme de l'épidémie, c'est assez inquiétant pour les États-Unis. Et il faut espérer que le gouvernement fédéral puisse peut-être par des systèmes de bourse, puisqu'on a bien compris qu'il ne pouvait pas directement agir sur les districts, pourrait peut-être, comme il l'a fait dans le passé, à essayer de rectifier à un moment ou à un autre du parcours scolaire ces inégalités.
Oui, et puis on n'a même pas parlé de la question des universités, où là aussi les étudiants, évidemment, se sont endettés pour y accéder, pour suivre leurs études, et se retrouvent en distanciel, comme on dit aujourd'hui, ne peuvent pas pour la plupart suivre ces formations. Il y a cette question aussi de la dette qui risque d'être un fardeau pour tous ces jeunes gens. D'ailleurs, on évoque, surtout sur l'aile gauche du Parti démocrate, la possibilité d'annuler leur dette, chose qui n'a pas l'air de convaincre totalement Joe Biden. Mais là aussi, on a une bombe à retardement potentielle qui est gravissime. Merci beaucoup en tout cas à vous, Esther Sina, d'avoir été avec nous par téléphone ce matin. Un grand merci à vous, Romain Huret, de nous avoir accompagnés aujourd'hui, de nous avoir éclairés sur cette paupérisation qui vient du côté des États-Unis. C'est toujours un plaisir de vous entendre. Vos ouvrages, lesquels dois-je rappeler, L'Amérique pauvre, Katrina 2005, Les États-Unis en crise et en guerre, les années Roosevelt. On mettra tout ça sur la page de Culture Monde. Comme d'habitude, les auditeurs peuvent s'y retrouver. Un grand merci à vous. Dans un instant, c'est Olivia Gesbert et la Grande Table. Mais tout de suite, c'est Brice Couturier, le Tour du Monde des Idées.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Ce matin, Brice, autour du livre de Douglas Murray, La Grande Déraison, vous est venue une envie de rompre quelques lances avec les woke. Mais d'abord, il va falloir nous expliquer ce que sont les woke.
Eh ben, d'une idéologie qui est parvenue à se faire passer pour un savoir et qui a débordé du cadre des universités américaines pour envahir les médias, les administrations, les grandes entreprises. Elle commence à s'infiltrer aussi chez nous. Le livre de Douglas Murray est une mise en garde contre les woke, qu'on pourrait traduire par conscientiser, si vous voulez, ou encore les social justice warriors, les combattants de la justice sociale, comme les surnomment par dérision leurs adversaires. Alors, selon Douglas Murray, les trois sources philosophiques auxquelles s'abreuve ce courant, ce seraient Michel Foucault, réduit à une obsession du pouvoir et à l'idée que tout savoir reflète un rapport de pouvoir, Antonio Gramsci, dont on ne retient que l'idée de la culture comme facteur d'hégémonie politique, et Jacques Derrida, sous l'angle de la déconstruction de la pensée occidentale. Vous ajoutez par là-dessus le populisme de gauche, dans la version Ernesto Laclau et Chantal Mouffe, selon lequel il faudrait, pour renverser le capitalisme, remplacer la classe ouvrière par une coalition de dominés et de minorités, et vous obtenez l'idéologie de nos social justice warriors, les woke. Étonnez-vous si dans ces conditions, les universités anglo-saxonnes se sont éloignées ces dernières années de leur vocation de recherche et de transmission d'un savoir objectif, organisé dans le cadre de disciplines possédant leurs propres méthodes telles que la sociologie, l'histoire, la linguistique ou l'économie. Non, de nouvelles études culturelles, cultural studies, spécialisées dans la célébration des identités, féminines, noires, homosexuelles, handicapées, etc., les ont remplacées. Un verbiage pseudo-savant, incompréhensible aux non-initiés, vient compléter le tout. Sujet décentré, violence épistémologique, construction sociale, intersectionnalité. Et nos révolutionnaires d'université entretiennent l'illusion d'une authentique lutte politique dans les chaudes serres de leur campus hyper privilégié.
Mais notre problème, Brice, c'est qu'avec les réseaux sociaux, la vieille distinction entre vie privée et vie publique a sauté.
Oui, toute opinion émise, y compris sur le ton de la plaisanterie, est immédiatement brandie comme une preuve de mauvaise pensée par les patrouilleurs du langage, comme les surnomme Douglas Murray. D'autant que les woke sont rarement aptes au second degré, imprégnés du sérieux glacial que leur inspire leur conviction d'incarner le bien en mission sur Terre, l'humour, genre Charlie Hebdo, leur est incompréhensible. À leurs yeux, la dérision est un reliquat de la culture du baby boom, et le rire n'est plus une libération, mais une offense potentielle. Ils se sont donné pour mission de formater l'opinion mondiale selon le nouveau canon, la nouvelle doxa. C'est pourquoi, écrit Douglas Murray, toujours lui, la révolution de la communication ressemble à un tapis roulant à grande vitesse. Elle accélère, en effet, la vitesse à laquelle nous nous dirigeons vers de mauvaises directions. Les woke se présentent comme les continuateurs des mouvements d'émancipation des années 60, mais en réalité, ils les ont pervertis. Le mouvement des droits civiques de Martin Luther King exigeait l'égalité des droits et non pas des droits particuliers. Lui-même n'a jamais proclamé qu'on le sache une identité noire distincte. Son antiracisme était universaliste, pas particulariste. Il réclamait qu'on juge les êtres humains indépendamment de leur couleur de peau. Au contraire, les woke sont obsédés par les questions de race, comme l'écrit Douglas Murray. Se proclamer indifférent aux couleurs de peau, colorblind, comme on disait avant-hier, était le signe distinctif de l'antiracisme. Eh bien, c'est désormais considéré comme une preuve de racisme inavoué, un mécanisme de déni, selon la sociologue Robin DiAngelo, une incapacité à distinguer l'expérience vécue de la discrimination. Alors que les campus nord-américains sont probablement les endroits les moins frappés de la Terre par le fléau du racisme, il est de bon ton de prétendre que les étudiants de couleur y sont en danger. Il faut faire croire que les choses s'aggravent d'une manière épouvantable. C'est ce que le philosophe Kenneth Minogue a appelé le syndrome de Saint-Georges à la retraite. Après avoir tranché une à une toutes les têtes du dragon, le Saint-Chevalier erre de par le monde à la recherche de nouvelles têtes à trancher. De nos jours, beaucoup de gens entendent faire étalage de leurs vertus en grimpant sur des barricades auxquelles personne ne songe à donner l'assaut. Le problème, c'est que cette posture combative donne lieu à des comportements qui ne favorisent guère la liberté de pensée et d'expression au nom de leur conception de la justice sociale, focalisée sur les uniques critères de la race et du genre. Les woke ont la passion d'empêcher, de censurer, d'interdire, et de plus en plus d'intellectuels, invités par des enseignants ou des étudiants, font l'objet d'une interdiction plus ou moins violente une fois arrivés sur place.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique. Donc Douglas Murray, La Grande Déraison, qui est son deuxième ouvrage traduit en français. Merci beaucoup Brice Couturier. On vous retrouve demain dans un très court instant. C'est Olivier Gesbert et La Grande Table.
France Culture. L'esprit d'ouverture.